Nous en arrivons à la 13e strophe du premier chapitre du Bodhicaryavatara. Nous traitons les 5 exemples sur l'importance d'engendrer la bodhicitta. Et maintenant, je pense que nous en sommes au 4e exemple. La bodhicitta est comme une très bonne sentinelle, un héros qui nous protège. Voilà ce qui est dit. Comme si, sous une escorte de braves, ils échappaient à de grands dangers, ceux qui sont lestés des crimes les plus insupportables, eux seront instantanément libérés par l'esprit d'éveil. Pourquoi les êtres prudents n'y recourraient-ils point ? Si nous devons aller à un endroit ou passer par un endroit plein de dangers, tels que des voleurs ou des ennemis, des sortes de lieux très difficiles, alors ce dont nous avons besoin est d'un garde courageux et habile, un bon garde. Si nous avons un tel garde qui peut nous protéger, nous pouvons traverser ces situations difficiles et dangereuses sans problème, mais pas dans le cas contraire. De la même façon, de nombreux dangers émanent de nos émotions négatives, de beaucoup d'influences négatives autour de nous, d'un grand nombre d'inclinations habituelles et de dépendances. C'est pourquoi nous avons besoin d'un protecteur fort et très spécial. Si nous pouvons engendrer la bodhicitta, alors c'est ce protecteur. Parce que si nous avons cette motivation de bodhicitta, cela nous aidera encore et encore à ne pas succomber à différentes sortes de pièges. Plus nous avons de compassion, moins nous succombons à l'habitude d'être écrasés par des émotions négatives. Et aussi, avec quelque sagesse, nous pouvons discerner ce qui est juste de ce qui est impropre. C'est pourquoi la bodhicitta est un protecteur très important pour nous-mêmes. Et si nous sommes avisés, nous avons besoin d'obtenir ce protecteur et de le conserver auprès de nous. Puis nous en arrivons au dernier exemple, le 5e. C'est l'exemple du feu de la fin des temps. C'est issu d'une perspective ou d'une légende indienne. Il est dit qu'à la fin, quand le monde se détruit, les 7 fils surviennent ou quelque chose de ce genre, tout se consume et rien ne subsiste, et même la totalité de l'univers, le monde entier brûle, se réduit en cendres et rien ne subsiste. Voilà ce qu'évoque l'exemple. Donc ce qui est dit ici est que si nous avons la bodhicitta, si nous maintenons vraiment cette bodhicitta, et qu'elle devient notre manière de réagir, notre façon de vivre, notre attitude envers les autres et nous-mêmes, alors il n'y a pas de risque que des actions négatives, des émotions négatives ou des inclinations habituelles négatives puissent se maintenir. Parce que tous les karmas négatifs, les émotions négatives, tout provient de l'attitude de se chérir, de s'accrocher au moi, 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 de l'égoïsme, de trop d'aversion, de trop d'attachement et autre chose de ce genre. C'est pourquoi quand vous êtes vraiment unis avec la bodhicitta, que vous agissez et réagissez avec bodhicitta, tous ces aspects négatifs ne peuvent pas subsister parce qu'il n'y a plus de place pour eux. C'est donc comme le feu de la fin du monde qui brûle tout. De façon similaire, quand vous vivez vraiment avec la bodhicitta, il n'y a plus de négativité, pas de création de karma négatif. Pas de karma négatif qui puisse subsister parce que cela les consume en permanence. C'est donc une purification très importante et une méthode pour ne plus créer à nouveau de karma négatif, d'actions négatives nuisibles pour nous et aussi pour autrui. C'est donc la première partie de la 14e strophe qui dit: Nul ne doute que les plus lourds méfaits se trouvent consommés en un instant par l'esprit d'éveil comme par un feu de fin des temps. Ensuite, la seconde partie de la strophe est au sujet d'autres exemples. Le Bouddha a donné beaucoup d'exemples sur l'importance de la bodhicitta, sur son fonctionnement. Dans l'Avatamsaka Sutra, Dopelpoche, c'est aussi appelé Dodepelpoche en tibétain, en sanskrit Avatamsaka Sutra, il y a un chapitre nommé Gandhavyuha. Et le nom tibétain est Dongpo, Kepa. Dans ce sutra, il y a un bodhisattva no, appelé Nordzang, Sudana. Il prend le bodhisattva Manjushri pour maître, et il y a environ 130 enseignants et exemples qui sont enseignés là. Tout cela n'est pas dans ce livre, le Bodhicaryavatara, mais si quelqu'un veut les lire, on peut le faire dans ce sutra et les parcourir. Il est dit: Innombrables sont ses bienfaits, ainsi qu'à Sudana. Innombrables parce qu'il y en a trop. C'est illimité. Les décrivit le sage Seigneur Maitreya. Le grand maître, je pense que c'est Manjushri qui explique ces choses. Il y a beaucoup, même d'autres endroits, des sutras, il y en a beaucoup. Maintenant, la question est que le sens du texte est intelligible et clair, mais que parfois les exemples ne le sont pas. Quelqu'un l'a évoqué. C'est parfois possible, parce que la plupart des exemples sont tirés du 6e siècle ou de l'époque du Bouddha, il y a 25 siècles. Donc les exemples qui étaient très importants ou fameux à l'époque ne sont plus si connus, ou on n'en parle plus guère. Ou ils ne sont plus très appropriés, ou peut-être qu'on peut trouver les exemples plus appropriés à notre époque. Ainsi, quelqu'un a évoqué l'exemple de l'alchimie comme n'étant pas très bon parce que ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse vraiment transformer en or. Et que même si ça arrivait, ça n'aurait pas beaucoup de valeur. Et ainsi de suite. Ce sont des exemples qui viennent de cette époque. Mais si on trouvait quelque chose de cet ordre, si je trouvais un secret pour fabriquer de l'or, plus particulièrement de nos jours où l'or a pris de la valeur, je pense que ce serait très sympathique. Mais c'est une autre histoire. Je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Avec ces deux strophes. Ensuite, nous poursuivrons. Aussi, oui, quelques personnes ont envoyé quelques donations par PayPal ou autre. Je dois leur exprimer mes remerciements. Même si ce sont des petites sommes, telles que 5 euros ou 10 euros, c'est une aide réelle. Merci beaucoup. Donc à bientôt. Merci.